les Perses perdirent à Salamine la plupart de leurs navires, détruits soit par les Athéniens, soit par les Éginètes. Les Grecs combattaient alignés et en bon ordre, mais les barbares avaient rompu leurs lignes et ne calculaient aucun de leurs mouvements. Il devait donc leur arriver ce qui justement leur arriva. Hérodote, L'Enquête, livre 8, chapitre 86.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Les guerres médiques, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, ont été un moment clé dans l'histoire de la Grèce. Effectivement, le sort de la civilisation grecque s'est sans doute joué à ce moment-là, car la victoire grecque ou la victoire perse aurait profondément modifié l'histoire de la Méditerranée et du monde grec. Nous disposons de sources sur les guerres médiques, mais évidemment, la plus importante sont les textes que Hérodote a rédigés, à qui on a donné le titre d'enquête, et qui nous fournissent la vision grecque du conflit. Hérodote était né vers 485, c'est-à-dire au moment de la première guerre médique, et il était mort vers 425. Il a pu consulter des témoins, il a consulté sans doute des archives, et il a pris soin de ne pas s'engager personnellement, même si il a indéniablement une faveur vis-à-vis des Grecs. Il a également montré l'importance à ses yeux de la volonté des dieux. Il estime effectivement que le divin pouvait jouer un rôle dans le profane. Ainsi, par Hérodote, on sait que la prise de Milet en 494 a été menée par un proche d'Arius, Mardonios, et qu'elle a donné lieu à des combats violents, permettant ainsi le début du conflit. Et puis ce conflit a été progressivement raconté jusqu'à son terme. Donc notre source est extrêmement précieuse. Il y a également une deuxième source qui serait intéressante, c'est la pièce « Les Perses » de Eschyle, qui pourrait nous permettre aussi d'imaginer en tout cas l'état d'esprit qu'avaient les Grecs au moment de ce conflit majeur. Mais d'abord, essayons d'analyser le pourquoi de cette première guerre médique, puisqu'en fait, il y en a eu plusieurs. La Grèce était en partie dominée par la Perse. En effet, des cités grecques étaient installées sur l'actuelle côte de la Turquie, totalement à l'ouest de l'Anatolie, et elles payaient tribut au roi des rois. Or, au début du 5e siècle, il y avait eu des révoltes qui avaient secoué cette souveraineté perse, et cette révolte avait été en partie soutenue par Athènes. Certes, la Perse avait réussi à reprendre les choses en main, mais il était estimé par le grand roi que l'insulte faite à son trône par les Grecs ne pouvait pas rester impunie, et qu'il fallait donc châtier les cités grecques, et en particulier Athènes, dans la mesure où elles étaient potentiellement actives pour soutenir les volontés d'indépendance des cités d'Anatolie qui s'étaient déjà révoltées donc au début du 5e siècle. C'est en 490 qu'une expédition maritime perse a été organisée. Elle comportait environ 600 navires, ce qui est considérable. Elle avait traversé l'Égée à partir de l'île de Samos, elle ravagea Naxos, et à Délos, elle débarqua des troupes qui d'ailleurs honorèrent le dieu Apollon. Débarqués en Érythrée, les Perses s'emparèrent et brûlèrent les temples en représailles de l'incendie de Sardes en 498 qui avait été organisé par les Grecs au moment de la révolte des cités que j'ai indiqué tout à l'heure. Les Perses étaient menés par l'ancien tyran d'Athènes, Hippias, qui avait été chassé, et elles débarquèrent ensuite à l'est de l'Attique, dans la plaine de Marathon. Mais elles furent défaites, Et en fait, les Perses ont été largement vaincus. On parle de 6000 soldats perses qui sont restés sur les plages de Marathon, alors que les Grecs auraient perdu un peu plus d'une centaine d'hoplites. En plus, la bataille de Marathon est restée dans la mémoire collective parce que on a envoyé un courrier pour avertir Athènes de l'arrivée d'une flotte perse qui, malgré l'échec de Marathon, voulait essayer de prendre par surprise la cité athénienne. Et ce coureur, ayant parcouru les 42 kilomètres qui séparaient Marathon d'Athènes, est mort après avoir averti la cité. On le célèbre, si j'ose dire, encore aujourd'hui, lorsqu'on court les marathons. Mais cet échec perse ne devait pas décourager le roi des rois. En effet, après la mort de Darius, qui avait été l'organisateur du premier conflit, en 486, son fils Xerxès avait repris le projet de tirer vengeance des Athéniens. Et il aurait envisagé de soumettre non seulement Athènes, mais également le Péloponnèse. Et il fit d'énormes préparatifs, ce qui d'ailleurs était connu des Grecs. Les effectifs qui nous sont fournis par les auteurs anciens sont absolument extraordinaires. On parle de 1 700 000 fantassins perses. On parle également de plus de 1 200 navires. Et d'ailleurs, Eschyle, dans sa pièce « Les Perses », fait allusion justement à ce chiffre de 1 207 navires pour être très précis. Les historiens modernes jugent peu probable des effectifs pareils, en tout cas pour les troupes terrestres. Mais il n'est pas impossible par contre que 500 à 600 000 soldats aient été mobilisés pour envahir la Grèce. Quant au nombre de navires, ils sont en tout cas extrêmement nombreux, plus nombreux que lors de la première expédition, et le chiffre de 800 à 900 navires est acceptable. Après avoir pris le contrôle de la Macédoine, les Perses ont continué vers le mont Olympe, qu'ils contournent par l'ouest, et ils vont essayer de forcer le passage au niveau des Thermopyles. Eh bien, vous connaissez cette bataille des Thermopyles, célèbre entre autres par des œuvres cinématographiques, où des guerriers spartiates ont réussi, commandés par Léonidas, à empêcher pendant quelques jours le passage des troupes perses, mais évidemment, à terme, ils ont été finalement écrasés. Par contre, sur mer, la flotte perse connaît quelques déboires, parce que des tempêtes en Méditerranée avaient sérieusement endommagé une partie de la flotte. On pense par exemple que quand les vaisseaux perses ont essayé de contourner l'Eubée par l'est, ils ont perdu environ 200 navires lors d'une terrible tempête. À Athènes, on se prépare à la bataille décisive qui sera finalement une bataille navale. Ne croyons pas à une unité absolue des cités grecques face aux dangers perses. En effet, en des cités des Locriens, des Doriens, des Béotiens avaient accepté de pactiser avec l'ennemi. Ils avaient médisé, comme l'expression célèbre l'a ensuite reprise. C'est-à-dire qu'ils avaient pactisé avec les Mèdes, avec les Perses. Et le verbe « médire » vient justement de cette attitude. Quant aux Athéniens, ils avaient accepté d'évacuer leur cité. Elle fut d'ailleurs ravagée. L'acropole a été brûlée. Mais par contre, dans la baie de Salamine, en 480, eh bien, la grande bataille navale a été largement en faveur des Athéniens et de leurs alliés. En effet, dans ce petit espace maritime, les lourds bateaux perses se sont entrechoqués, ont eu des difficultés à manœuvrer, et finalement, une grande partie a été détruite. La guerre a pourtant continué. L'année suivante, en 479 avant Jésus-Christ, les hommes du responsable perse Mardonios, environ 300 000 hommes, qui avaient hiverné en Thessalie, ont essayé de reprendre l'offensive et ils ont été cette fois-ci vaincus à la bataille de Platée. Désormais, la Perse va renoncer à envahir directement la Grèce. C'est pour cela que la Grèce a, je dirais, une mémoire encore importante aujourd'hui des guerres médiques, parce que la civilisation grecque a sans doute joué son avenir. Une victoire perse aurait profondément modifié l'histoire de la Méditerranée et l'histoire de la Grèce elle-même. C'est au nom d'ailleurs de souvenirs relativement anciens que Alexandre le Grand s'est lancé, au moment où il devient roi de Macédoine, à l'assaut de l'Empire perse. C'est au nom du souvenir des guerres médiques qu'il a décidé d'unir les Grecs sous le commandement macédonien pour détruire finalement l'Empire perse. Mais c'est une autre histoire.